ça me fait loucher. Je suis trop près. Je disais à ma femme ce matin, il n'y aura pas beaucoup de monde, on est au mois de juillet, c'est les vacances, les bancs seront vides, mais je suis surpris de voir que l'église est pleine. Et c'est vraiment un bonheur, une joie de louer le Seigneur dans la communion fraternelle. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. L'église est un peu cosmopolite. Et c'est vraiment une bénédiction ensemble de louer le Seigneur, ensemble que nous puissions adorer et faire monter notre louange à notre Seigneur. C'est vraiment une bénédiction. L'apôtre Paul, parlant de son corps physique, le compare à un simple vase, un vase de terre fragile et cassant, mais un vase qui contient cependant un immense trésor, le trésor de la puissance de l'évangile de Christ. Cependant, dans ce même corps délicat, ce même corps délicat est soumis, malheureusement, aux tribulations, il est soumis aux épreuves, au découragement. Et l'apôtre Paul, ou saint Paul pour certains, saint parce qu'il est, par sa position de fils de Dieu, de chrétien, écrit ceci dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 7 et 8. Je vous lis. Versets 7, 8 et 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et j'ai envie d'ajouter, ce n'est pas parole d'évangile, mais découragé, mais non délaissé. Ce sera le titre de ma prédication ce matin, qui portera donc sur le découragement. Découragé, mais non délaissé. Un jour fatigué, le diable décida de prendre sa retraite. Et comme sa couverture sociale et ses revenus étaient insuffisants, il décida donc arrondir sa fin de mois, de vendre sa trousse à outils, tout son attirail. Tout était là. La méchanceté, la jalousie, la haine, la médisance, le cynisme, le mépris. Mais l'un des outils était à part et semblait beaucoup plus usé que les autres. Et intrigué, un badaud lui demanda « Qu'est-ce que cet outil ? Et pourquoi le vendez-vous plus cher que les autres ?» Le diable répondit « Ah, celui-ci fait des ravages, il est redoutable. Celui-ci, c'est le découragement. » Mais l'autre insista, « Et pourquoi vendez-vous le découragement aussi cher ? » C'est très simple. C'est l'outil le plus facile à enfoncer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque le découragement y a été introduit, il est beaucoup plus aisé d'introduire les autres outils, quels qu'ils soient. Une allégorie qui prête un peu à sourire, mais qui cache une certaine vérité. Une réalité certaine, une triste réalité. Et tous, depuis Adam jusqu'à David, en passant par les prophètes, les disciples de Jésus, l'apôtre Paul, jusqu'à tous les chrétiens d'aujourd'hui, tous ont dû faire face un jour ou l'autre au découragement. Ce découragement qui se présente sans invitation. Il résonne comme un soupir chez un David. Il sent l'ulcère chez un Job. Il étourdit un Jonas sous un soleil de plomb. Il cloître un Élie. Il extirpe des larmes chez un Paul. Et j'étais surpris en ouvrant ma concordance biblique de voir le nombre de fois où Dieu encourage ses fidèles en disant « Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, agis. Ou prenez courage. » Et il faut croire que même les enfants de Dieu ne déroge pas la règle, n'échappe pas à l'étau de l'abattement, à l'étau du découragement. Un Josué, un Esdras, un Ésaïe, un Paul, des disciples directs de Christ, des grosses pointures bibliques, une fois au moins dans leur vie, ont sombré dans le découragement, mais ont eu cependant le privilège de recevoir ce mot d'encouragement, de s'entendre dire « Prends courage ». Si nous lisons Ésaïe chapitre 1, versets 6, 9 et 18, Dieu dit ceci, « Je ne te délaisserai point, fortifie-toi, prends courage. » Une parole à Josué. Esdras, chapitre 10, verset 4, « Lève-toi, prends courage, agis. » Ésaïe, dans Actes 23, verset 11, le Seigneur apparut à Paul, il lui dit « Prends courage. » Jésus à ses disciples, en Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Shakespeare, dans un de ses ouvrages, a écrit cette phrase « Il n'y a pas d'homme sans chagrin. S'il y en a un, ce n'est pas un homme. » L'invasion de ce sentiment qui terrasse et qui laisse sans énergie tout être humain est une éventualité, à envisager, à ne pas écarter dans la vie chrétienne, chez le chrétien, et à laquelle il faut parfois s'attendre et s'y préparer peut-être. C'est une arme redoutable, comme on l'a vu en introduction, dont l'ennemi se sert pour faire du mal dans les rangs des chrétiens et pour les déstabiliser, les disperser. J'avoue que plus j'avance en âge, Raphaël, la semaine dernière, disait qu'on prêche souvent pour soi en premier. C'est un peu le cas. J'avoue que plus j'avance en âge et dans la vie chrétienne, plus je me sens poursuivi parfois par ce sentiment de découragement. Et quand il m'envahit, j'admets que c'est véritablement un poids. Et pour moi, et pour mon entourage, et pour l'Église aussi, bien sûr. En lisant entre les lignes, on s'aperçoit que beaucoup de psaumes, beaucoup de psalmistes frisent le découragement, voire la dépression. Voici un échantillon de la détresse de David à travers le psaume 143 que nous lirons, et dans lequel on y trouve un homme désespéré, un homme abattu. Son écrit, ce psaume, est la prière de quelqu'un qui touche le fond, qui lance un urgent appel au secours. C'est une supplication qui sort des tripes, comme on sait le faire quand, chaque fois qu'on est au fond du gouffre, seul avec soi-même. Je vous invite à aller ouvrir vos Bibles dans le psaume 143. J'ai dit que c'était un échantillon, car beaucoup de psaumes vont dans ce sens. Le psaume 25, le psaume 142, le 143, il y en a énormément. Je lis avec vous psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, je me cache, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître, le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi à la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. La situation de découragement du roi David se devine à travers ses propos alarmants. « L'ennemi me persécute », au verset 3, « je suis terrassé, je suis piétiné. Il m'enfonce dans les ténèbres et me fait côtoyer la mort. » Au verset 4, « j'en perds tout courage, toute énergie. Je n'ai plus la force de réagir. » Verset 7, « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai trop besoin de toi. » Je résume un peu. « Sans toi, ma vie se détruit. » au verset 7, « Je me sens vide, sec, comme une terre aride, desséchée. Mon âme soupire après toi. » Je crois qu'il y a là suffisamment d'ingrédients pour occasionner un état de démoralisation, d'accablement. Mais qui est cet ennemi ? Qui est cet ennemi qui poursuit l'âme, qui assaille, qui piétine, qui persécute, qui met à terre, qui terrasse ? Cet ennemi peut tout simplement avoir la forme d'un échec. Un échec sentimental, une séparation, une rupture douloureuse, un divorce mal vécu. Cet ennemi peut avoir la forme d'un couple qui bat de l'aile, un foyer déchiré. L'ennemi peut aussi être un échec professionnel, une entreprise qui fonctionne mal, un boulot pénible, toujours sous pression, ou alors un chômage prolongé, malgré une multitude de CV déposés et de nombreuses démarches effectuées. L'ennemi peut s'appeler aussi handicap, lourd ou léger. Il peut s'appeler maladie, insupportable, incurable. Il peut être une difficulté financière, un deuil insurmontable. L'ennemi est aussi parfois un surmenage, une fatigue extrême qui induise un état de faiblesse. Et il peut en être de même pour quiconque s'enferme dans une grande solitude. Alors rapidement, les symptômes et les effets du découragement sont caractéristiques. On les reconnaît. Ils se traduisent généralement par le trouble du sommeil et de l'appétit, une perte de poids, une perte de désir, une perte de plaisir, un manque d'énergie, d'esprit d'initiative, de concentration, une sensation de vide, une incapacité à se concentrer, à prendre des décisions. Les effets peuvent aussi ressembler à un retrait de la société. On s'enferme dans la solitude. L'humeur est altérée. On n'a plus de joie, mais la tristesse et les pleurs sont là. Il y a un ralentissement de la pensée, de la réflexion, de la mémoire. Une inhibition de la volonté. Les effets et les symptômes du découragement sont aussi un manque d'estime de soi, on se dévalorise, on se replie aussi dans un mutisme, un semi-mutisme, on constate une baisse de rendement au travail, l'accomplissement de travaux médiocres, mal accomplis, une difficulté à accomplir les tâches courantes, quotidiennes, ménagères, une désorganisation, une paresse, une fuite et devant celle-ci. Parfois même des pensées suicidaires, des pensées récurrentes. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais elle est suffisamment accablante pour menacer, pense-t-on, plus de 10% de la population, dont deux fois plus de femmes que d'hommes, et ceci à n'importe quel âge. Alors je crois qu'il ne faut pas minimiser l'état de découragement ou de dépression rencontrée chez un frère ou chez une sœur, voire chez soi-même. Ce ne doit en aucun cas être considéré, vu comme une tare ou une médiocrité de la part de la personne qui en souffre. Sa situation, au contraire, doit être prise au sérieux. On sait qu'elle perturbe le fonctionnement social, professionnel, le fonctionnement psychique et spirituel même de l'individu, et qu'elle peut entraîner une souffrance invisible, une souffrance silencieuse, mais réelle, forte, importante. À chacun de nous d'entourer, de soutenir, de compatir, d'aimer de tels gens. À nous d'être sensibles à la fragilité de mon frère ou de ma sœur, de mon prochain, et d'être un instrument de réconfort, un appui, un secours, un serviteur. Ce sentiment déstabilisant, un peu nébuleux, est ressenti d'autant plus douloureusement chez nous, chrétiens, que nous avions toujours vécu jusque-là, en tout cas c'était pour moi, nous avions toujours vécu jusque-là dans l'illusion d'être forts, courageux, imperturbables, protégés et à l'abri de tout cela. Nous ne donnions à personne ni à nous-mêmes l'impression de faiblesse ou de vulnérabilité. Quand j'étais jeune, du haut de mes 19 ans, quand j'étais jeune converti, pardon, et du haut de mes 19 ans, je baignais dans un nuage spirituel. Tout était beau, tout était facile, il n'y avait pas de problème, il n'y avait que des solutions. Je ne pouvais comprendre ni accepter qu'autour de moi, les chrétiens puissent sombrer dans le découragement, dans la dépression. Je n'acceptais pas que les chrétiens pouvaient mener une vie de défaite, une situation défaitiste. Depuis, le Seigneur a bien transformé ma pensée, ma façon de penser et d'appréhender le problème aussi. Et alors que nous nous sentions indétrônables, voici brusquement que tout bascule, il nous faut alors admettre et constater que nous ne sommes pas aussi forts que nous l'avions imaginé. Les ressorts sont détendus, la mécanique est cassée, abîmée. C'est peut-être là aussi l'apprentissage de l'humilité, voire de l'humiliation. Et parfois, loin de nous aider, notre foi vient alimenter notre abattement, notre accablement. Nous culpabilisons de ne pas pouvoir faire front et de ne pas être plus vaillants, capables de rendre au Seigneur la fidélité qu'il attend de nous en pareille circonstance. Alors, quelle solution, David met-il en avant pour combattre cette dépression qui le guette ? Psaume 143. Le serviteur David est un peu à la dérive, disons-le, dans une situation d'équilibre instable. Vous savez, c'est cet équilibre qui est vraiment à limite. Et il est découragé, mais non délaissé. Découragé, mais non délaissé. Il est attiré vers le fond par son ennemi, et en même temps, il se sait porté, soutenu par sa solide espérance et confiance qu'il a en Dieu, par ses lointains souvenirs et expériences vécues qui le lient à l'Éternel. Les ressources de David, ses ressources, font appel à ce qu'il connaît, à ce qu'il sait, à ce qu'il a de plus sûr, de plus cher, de plus fidèle, à savoir le Dieu du salut, le Dieu de la promesse, le Dieu de la délivrance. Ses acquis en matière d'enseignement et d'expérience sont vécus, le portent même quand il n'est plus en mesure de voler à vue, ou lorsqu'il fonctionne, comme on dit en automobile, en mode dégradé ou en mode de secours. Voici ce qu'il repasse dans son cœur, au verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois. Je me confie en toi, au verset 8, verset 9, « Tu es mon refuge, tu es mon Dieu, tu es un Dieu de bonté. » L'espérance et la confiance de David s'entrevoient aussi chaque matin à son réveil. Au verset 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Le matin s'oppose au verset 9, au verset 3 pardon, des ténèbres. Le matin s'oppose aux ténèbres du verset 3. L'aurore succède à la nuit. C'est le moment où la lumière et la vie paraissent. Après l'obscurité de la nuit, synonyme de d'égarement. Le matin, bien sûr, là, c'est une métaphore de la délivrance, d'une renaissance. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. J'ai lu il y a quelques années sur un mur, un grand mur, c'était un grand tag, cette phrase, « Il n'y a pas d'espoir sans désespoir ». Il n'y a pas d'espoir sans désespoir. Et de même, il n'y a pas de matin sans nuit, il n'y a pas de matin sans l'obscurité de la nuit. Alors comment retrouver un peu de courage lorsqu'il vient à manquer ? Voici quelques pistes, quelques réponses sur la manière de traiter le découragement d'un aspect biblique. Et je précise qu'il n'est surtout pas exclu d'en parler avec votre médecin ou de consulter un psychologue. Prie. Prie aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire. Fais part à Dieu de ta situation indésirable par des supplications, des requêtes. Prie, mais aussi loue et adore ton Dieu en toutes circonstances, en toute occasion, lorsque tu es découragé. Nous l'avons lu ce matin, béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends. dans les jours mauvais, dans les bons jours. Béni soit ton nom. Et c'est une façon d'être fort, louer, adorer Dieu, même dans ces circonstances-là. Abandonne et confesse ton péché, s'il y en a un. Détourne-toi de cet obstacle qui pourrait t'accabler avec l'aide de Dieu. Alimente-toi de la parole de Dieu, de ses promesses, de ses vérités. Lis-la, médite-la, apprends-la, répète-la, étudie-la. Raphaël, dimanche dernier, nous a longuement parlé là-dessus. Il nous a dit que c'était la respiration spirituelle du chrétien. Bâtis et ancre ta foi en lisant la parole de Dieu. Paul encore nous dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, bâtir et ancrer sa foi en Christ à travers la parole de Dieu. Ne plus se focaliser sur tes problèmes, sans les minimiser, bien sûr, sans vouloir les minimiser, encore une fois, mais sur ce que la parole de Dieu dit de ta situation. Concentre-toi sur ce que Dieu dit sur ta situation. Ta réalité n'est pas la vérité. Elle est une réalité, mais elle n'est pas la vérité. Mais la vérité immuable peut changer ta réalité. La vérité, c'est qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ, chemin Jésus le Sauveur, celui qui délivre, et que cette vérité ne te laissera jamais tomber. Nous avons des promesses, je vous en lirai juste trois, elles sont nombreuses, mais le psaume 34, verset 19, on connaît tous ces paroles de réconfort, mais j'aime les répéter. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et un peu plus loin, au chapitre 41, au verset 10. Je te choisis, je ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Une autre piste, c'est de dire non au découragement, de résister, de le combattre, de le refuser, refuser la crainte, refuser le doute, car si Dieu te dit « prends courage et fortifie-toi », c'est qu'il te donne aussi les moyens d'en sortir, d'être fort en lui. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, a dit Jésus. Même si nous avons été prévenus que nous vivrons des tribulations, des épreuves qui seront des sujets de découragement, nous l'avons lu en Jean chapitre 16. Enfin, une autre solution, une autre piste, c'est change tes habitudes, change-toi les idées. Cesse d'être négatif, relativise les choses. Vois les bonnes choses qui sont en toi. J'ai entendu la semaine dernière qu'au Somalie, il y a 12 millions de gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, des enfants. Et quand on voit ça, je me dis merci Seigneur, parce que tous les matins, j'ai un toit, j'ouvre le frigo, il est plein, j'ai une santé, j'ai de l'eau courante. Ce sont des choses qu'il faut relativiser, plutôt que de voir les choses négatives. Prends du repos si tu en as besoin. Fais un break, fais une pause. Revois tes priorités. Abandonne ceux qui n'est pas indispensable dans ta vie et qui te prennent du temps, qui te minent. Apprends un peu à te faire plaisir, peut-être. Fréquente les bonnes personnes et fuis la mauvaise compagnie. Va à l'église, écoute des messages, prends conseil, discute avec des personnes de confiance. Ouvre-toi vers les autres, rends-toi utile. Et si tout cela ne suffit pas, eh bien courez vite voir un thérapeute. Et pour terminer, une petite anecdote. On raconte que le seul survivant d'un naufrage fut jeté par les flots sur une petite île déserte. Il pria pour que Dieu vienne à son secours et chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir s'il pouvait obtenir de l'aide. Mais rien ne venait, rien ne semblait venir. Épuisé, il parvint finalement à construire une petite cabane, une petite hutte en bois et en paille pour se protéger et y déposer ses quelques biens. Mais un jour, après être parti chercher de la nourriture, il retrouva sa cabane en flammes, tout était perdu. Il était rempli de chagrin et de colère. « Oh Dieu, pourquoi ? Pourquoi as-tu pu, comment as-tu pu me faire ça à moi ?» se lamentait-il. Tôt le matin, le lendemain, il fut réveillé par le bruit sourd d'un bateau qui approchait de l'île. Il était venu le secourir. « Comment avez-vous su que j'étais là ?» demanda à ses sauveteurs le naufragé, surpris. « C'est super, c'est merveilleux. » « Nous avons vu de loin votre signal de fumée, » lui répondirent-ils. Il est humain de céder au découragement lorsque tout s'écroule. Pourtant, nous ne devrions jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même au milieu de nos maux et du chagrin. Nous ne sommes jamais délaissés. Alors, souvenez-vous la prochaine fois que votre petite cabane brûlera, ce n'est peut-être qu'un signal de fumée qui fera venir sur vous la grâce de Dieu. Amen.